Vous écoutez, on lit pour vous.
Expulsion de migrants, le choc du retour. Un texte de Lise Marie Gervais paru le 24 mai 2025 dans Le Devoir. À coup de décrets présidentiels, de déploiements de militaires et même de primes de 1 000 versées à ceux qui partent de leur propre chef, le président américain Donald Trump n'y est pas allé de main morte pour mettre en œuvre ses politiques d'expulsion massive d'immigrés. Ses effets se font ressentir jusqu'au Salvador, pays d'origine de la deuxième communauté de latino-américains aux États-Unis après le Mexique, où des ressortissants sont expulsés comme des criminels. Après avoir vécu 31 ans aux États-Unis, Victor Rivera n'avait que de vagues souvenirs du Salvador, qu'il avait quitté dans sa vingtaine pour aider sa mère qui n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Installé au Maryland, un État où vit une importante communauté salvadorienne, il se dirigeait vers sa voiture pour aller travailler à l'hôpital du district quand deux hommes l'ont attrapé par derrière. L'ICE, Immigration and Customs Enforcement, venait de frapper. Ils m'ont dit « On est de l'immigration, on vient pour t'expulser », raconte-t-il au Devoir, qu'il a rencontré à San Salvador 3 semaines après un retour au bercail pour le moins brutal. Les agents l'ont aussitôt menotté au poignet, aux chevilles et à la taille, comme un délinquant, ajoute-t-il, encore traumatisé par les événements. En panique, il a protesté et exigé un avocat, mais on le lui a refusé. Pour toute explication, les agents de l'ICE lui ont montré sur un téléphone cellulaire une copie d'un ordre d'expulsion daté de 2015. Mais Victor Rivera, qui n'a jamais déménagé en 30 ans, assure n'avoir jamais reçu un tel document. C'est comme ça qu'on m'a amené, du jour au lendemain. Au Salvador, la direction de l'immigration et des affaires étrangères a confirmé à la presse locale qu'elle ne détenait aucune statistique actualisée sur les Salvadoriens qui sont revenus au pays depuis le début du deuxième mandat de Donald Trump. Elle n'en a pas non plus sur le nombre d'expulsions qui ont été effectuées depuis le début de 2025. Aux États-Unis, la Chambre des représentants a toutefois adopté de justesse un bouquet de mesures comprenant une augmentation de 45 milliards pour la construction de nouveaux centres de détention pour immigrants et l'embauche de 10 000 agents supplémentaires de l'ICE. C'est signe que les expulsions augmenteront, pense Mercedes Lopez, directrice de Simitra, l'un des rares organismes qui aide les Salvadoriens de retour au pays à se réintégrer socialement et économiquement. Des hommes âgés et traumatisés. Pour l'instant, la moyenne de 3 vols de retour par semaine demeure inchangée. Ce qui change, c'est plutôt le profil des personnes expulsées, qui sont beaucoup plus vulnérables, constate-t-elle. Ce sont des hommes plus âgés, certains vivant avec des maladies chroniques qui ont passé 10, 20 et même 30 ans aux États-Unis. Dans le lot, il y a aussi des femmes et des enfants qui sont nés aux États-Unis et n'ont jamais connu un autre pays. Ils sont terrifiés, dit-elle en entrevue au Devoir. D'abord parce qu'ils vivent dans la peur constante d'être arrêtés, n'importe où, puisqu'une demande de statut à l'étude ne les protège plus d'une expulsion. On va maintenant les chercher à la maison et même au travail. Si certains n'ont jamais régularisé leur statut, Victor Rivera avait, preuve à l'appui, un statut de travailleur temporaire qu'il renouvelait tous les 2 ans. La façon dont ces immigrants sont traités a aussi radicalement changé, déplore Mercedes Lopez. Ils n'ont commis aucun délit et on les traite comme s'ils avaient commis un crime grave ou assassiné quelqu'un. En détention, ils vivent des moments d'angoisse dans l'antichambre de leur expulsion. On les enchaîne, les force à marcher pliés en deux, on les frappe et leur crie dessus, raconte-t-elle, d'après les témoignages qu'elle a reçus. Pendant le vol de retour, on ne leur permet même pas d'aller aux toilettes. Célibataire et sans enfant, Victor Rivera a d'abord été placé en détention avec d'autres immigrés dans un centre à Baltimore. On avait droit à une bouteille d'eau par jour, dit-il. « Et à manger ?»« De la nourriture pour chat », lâche-t-il en parlant de la faible quantité et de l'aspect peu ragoûtant de ce qu'on lui servait. En état de choc, il a très peu dormi. J'étais dans un cauchemar éveillé. Il a ensuite séjourné 4 jours dans un centre de détention à Houston, au Texas, avant d'être embarqué, toujours lourdement menotté, dans un vol vers San Salvador, un aller simple vers la case départ. Et sa maison, sa voiture, ses amis, sa vie au Maryland, laissée en plan, désertée. Une vie à reconstruire. Quand on a passé autant d'années en exil, il y a de quoi être désorienté au retour, fait valoir Mercedes Lopez. Ils sont partis depuis longtemps et ne connaissent plus rien du quotidien salvadorien. Certains ne sauront même pas comment prendre l'autobus. Ensuite viendra le choc économique, souligne-t-elle. Trouver un emploi dans un pays où on n'a plus de repères peut représenter une montagne. Et passer d'un salaire de 10-15 $ l'heure à moins de 2 $ l'heure au Salvador est très déstabilisant. À cela s'ajoute la stigmatisation et la discrimination dont les « retournés », comme on les appelle, sont victimes. Le Salvadorien qui revient au pays, après avoir goûté au rêve nord-américain, a forcément échoué aux yeux de plusieurs. Il y en a qui mentent en disant qu'ils sont revenus pour seulement quelques mois pour faire une démarche administrative ou venir chercher des papiers, dit la directrice du CIMITRA. D'autres se cachent pendant plusieurs mois avant d'oser affronter la réalité. Quand on demande à Victor Rivera comment ont été les retrouvailles avec sa mère, il esquisse un sourire gêné. Comme une maman, vous savez bien, heureuse de revoir son fils. Lui-même se dit partagé entre la joie de revoir les membres de sa famille et ses idées sombres qui le plongent dans un état dépressif. « Je suis content de revoir ma mère. » Mais en même temps, il y a ce sentiment très laid d'avoir été arraché à ma vie d'avant, d'avoir tout perdu, dit-il, comme si rien n'avait existé. Car aujourd'hui, âgé de 58 ans, Victor Rivera ne retournera pas aux États-Unis. Ce serait trop difficile. Grâce à des programmes d'entrepreneuriat et d'aide à l'emploi que l'organisme CIMITRA porte à bout de bras, il promet d'essayer de se refaire une vie. Avec ma mère, on a parlé d'avoir une petite ferme. Ce serait notre manière de nous en sortir, de résister. C'était « Expulsion de migrants, le choc du retour », un texte de Lise Marie Gervais paru le 24 mai 2025 dans Le Devoir.
Quatre décennies de pratiques médicales à contre-courant. Un texte d'Hélène David, paru le 28 mai 2025 dans La Presse. J'ai connu la docteure Geneviève Deschênes pendant mes années de vie politique, mais aussi à travers nos rencontres fortuites le samedi matin, au gymnase que nous fréquentions toutes les deux. La passion de cette médecin pour son travail, pour les soins à domicile et pour les personnes âgées, les convictions qui émanaient de ses propos, son énergie malgré plus de 40 ans de métier, voilà qui piquait ma curiosité et suscitait mon admiration. La docteure Deschênes aura bientôt 68 ans. 43 ans à travailler au même CLSC, celui de Verdun, à raison de 40 heures par semaine, sans compter jusqu'à récemment ses 25 heures de consultation dans un GMF. Pour elle, la semaine de 65 heures a toujours été la norme après avoir élevé ses enfants, mue par son plaisir de travailler en équipe et de se sentir utile. Elle a développé très jeune son sens des responsabilités. Dès son enfance, elle prenait soin, dans des conditions plutôt difficiles, de son frère, aux prises avec les séquelles d'une méningite sévère, et de sa petite sœur. Ses premières années scolaires, elle les a passées à Paris, où elle a appris la débrouillardise et a cultivé la maturité, veillant sur sa fratrie pendant que sa mère faisait ses études de doctorat, tout en travaillant pour subvenir aux besoins familiaux. Son père, qui était resté au Québec pendant ses années parisiennes, et mort prématurément à l'âge de 43 ans. La petite Geneviève n'avait que 10 ans. Elle se servira de la résilience et de la détermination acquises à ce très jeune âge pour travailler sans relâche à améliorer le bien-être de tous, patients comme proches. J'ai toujours été une petite pieuvre qui s'occupe avec bonheur de ma famille, de mes patients, de mes 3 enfants. Sans compter aujourd'hui le plaisir d'être mamie. Je déguste cette partie de ma vie, évoque la docteure Geneviève Dechêne. La docteure Dechêne s'exprime souvent publiquement pour décortiquer les enjeux socio-économiques, psychologiques et politiques des soins à domicile aux personnes âgées et à ceux et celles qui sont en fin de vie. Le sentiment d'injustice et une certaine colère sont les moteurs, dit-elle, de son engagement public. Or, elle estime n'avoir jamais été vraiment entendue quand elle a parlé de vieillissement de la population, un enjeu qui la préoccupe depuis longtemps. Durant les 40 dernières années, j'ai parlé dans le désert au Québec. Aucun intérêt pour les personnes âgées, seulement pour le curatif et la médecine hospitalière. Cependant, depuis 2 ou 3 ans, les bébés boomers se réveillent et réalisent qu'ils vieillissent et que ce n'est pas toujours facile. Face à cet enjeu, l'ensemble de la société doit réagir rapidement, ajoute-t-elle, parce qu'il se passe 8 ans en moyenne de perte d'autonomie avant de mourir. S'ils tardent à s'adapter à ce vieillissement généralisé, le Québec fonce tout droit dans un mur, avec des pénuries de tout, de lieux d'hébergement, de personnel soignant et de soutien, etc. Il faut élargir considérablement l'offre de soins à domicile pour les personnes moins fonctionnelles. Une solution bien moins dispendieuse que l'hébergement institutionnel et qui respecte bien davantage la dignité et l'humanité des patients les plus vulnérables. La docteure Dechêne perd un peu patience et s'inquiète pour la suite. « J'ai de plus en plus de patients qui ont mon âge, » dit-elle. « Je vis au jour le jour de façon aiguë avec le sentiment que je suis sur la ligne de front et que je peux être la prochaine à tomber. » « Qui, se demande-t-elle, va s'occuper de la prochaine génération vieillissante, appelée à vivre de plus en plus longtemps et qui désirera demeurer à domicile? Et quels services lui seront offerts ?» Avec les années, la docteure Dechêne a appris à accompagner les patients vers la mort. Il faut de l'introspection pour bien vieillir. « Je ne veux pas de drame si je suis malade, » affirme-t-elle. « Je veux être entourée d'amour, de soins et de sécurité, et que mes enfants viennent me voir souvent. » Pas d'euthanasie non plus. Dans la vie, tu prends ton jeu de cartes et tu apprends à jouer avec. C'est la vie et elle amène inévitablement à la mort, mais pour préserver l'autonomie des patients. Nous devons penser à la qualité de l'accompagnement, tant du soutien médical que domestique. Notre attitude vis-à-vis de la vieillesse constitue un des sujets principaux de la force de notre civilisation, écrivait Laure Adler dans « La voyageuse de nuit ». L'autrice française nous rappelle que Simone de Beauvoir s'inquiétait déjà, il y a plus de 50 ans, dans son livre « La vieillesse », de la dangerosité d'une société qui malmène les vieux. La docteure Dechêne me rappelle mon père, cardiologue, qui partait souvent, le soir ou les fins de semaine, pour visiter ses patients à domicile. Il croyait en une médecine avant tout humaine et au plus près des besoins psychologiques et sociaux de ses patients. Il aurait profondément admiré et respecté la docteure Dechêne. Le gros deuil de ma vie sera quand je ne pourrai plus donner. J'irai cuisiner de la popote roulante si jamais je ne peux plus pratiquer la médecine. Au moins, je prendrai soin d'une autre façon des plus vulnérables, dit-elle. Le don de soi jusqu'au bout. À croire que l'engagement ne prend jamais de retraite. C'était 4 décennies de pratique médicale à contre-courant, un texte d'Hélène David paru le 28 mai 2025 dans La Presse.
À 65 ans, Patrice Lécuyer se lance un nouveau défi. Un texte de Michel Lemieux paru le 15 mai 2025 dans Virage. Patrice Lécuyer n'a plus rien à prouver. Pourtant, à 65 ans, l'acteur et animateur vedette, l'une des personnalités préférées du Québec, a choisi de se lancer un défi. Monter seul sur scène, sans personnage derrière lequel se dissimuler. Dans « Après seulement 32 ans d'absence sur scène », son tout premier one-man show en carrière, il se dévoile comme jamais auparavant. Je pense que lorsque les gens sortiront de la salle, ils auront l'impression de mieux connaître Patrice Lécuyer, qui n'est pas celui qu'on voit à la télévision, dit l'artiste au sujet de son spectacle, qui sera présenté un peu partout au Québec jusqu'au printemps 2026. C'est une véritable rencontre avec le public. Les gens qui ont interviewé Patrice au fil des années savent à quel point il a toujours été jaloux de sa vie privée. Dans ce show, actuellement en rodage, on pourra découvrir ce qui explique cette légendaire discrétion. « Il y a des raisons qui expliquent tout ça », confie-t-il. « Je vais les révéler sur scène, mais c'est un sujet dont je ne parlerai jamais en entrevue. Des événements dans ma vie m'ont amené à choisir de ne pas parler de moi. » Je ne me sentais pas à l'aise de le faire. Cela dit, mon spectacle n'est ni une biographie ni une psychanalyse, mais je dévoile les coulisses de ma vie, mes insécurités, mon côté hypochondriaque, etc. Je parle de moi et de ma vision des choses, poursuit-il. Que les gens puissent être intéressés par ce que j'ai à dire, c'est très touchant. Ce spectacle est incroyablement gratifiant par rapport à tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Le véritable bonheur. À la mi-soixantaine, alors que plusieurs songent à la retraite, Patrice s'aventure dans un nouveau projet. Manifestement, ses choix semblent davantage dictés par son état d'esprit que par son âge. Je comprends qu'on puisse trouver audacieux de faire un premier one-man show à 65 ans. Peut-être que je frapperai un mur à 75 ans, mais en attendant, je ne ressens pas mon âge. Je crois que je ne suis pas fait comme tout le monde. Pour moi, l'âge n'a jamais compté. J'ai l'impression d'avoir 30 ans. Toute ma vie, j'ai eu la chance de faire ce que j'aime. Quand j'ai commencé ma carrière, je jouais au théâtre. Chaque fois que j'allais travailler, je disais toujours que j'allais jouer, et j'ai conservé cette expression. Toute ma vie, j'ai joué. J'aime tellement ce que je fais que je ne ressens pas le poids des années. Par contre, j'ai constaté qu'on arrive un jour à l'âge où il faut faire ce qu'on aime, nuance-t-il, et pas seulement dans le travail. Il faut s'entourer des gens qu'on aime, il faut faire le ménage dans ses vies. Si on ne le fait pas, on risque d'être malheureux longtemps. C'est ce que l'âge m'a appris. Le véritable bonheur, c'est de vivre avec les gens qu'on aime et de faire ce qui nous passionne. C'est ainsi que, plus de 3 décennies après sa dernière apparition sur scène, Patrice réalise un vieux rêve, celui qui l'animait à ses débuts, mais qu'il n'avait jamais osé concrétiser. « Très jeune, j'étais déjà attiré par la scène », se souvient-il. « Je voyais Yvon Deschamps en spectacle, mais jamais je n'aurais osé imaginer que je pourrais, moi aussi, faire ça un jour. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu, mais sans jamais croire que ce serait possible, que ça me serait permis. » Comme le dit si bien le dicton en vogue au Québec et que je déteste profondément, on est né pour un petit pain. Yvon a tellement joué au théâtre Maisonneuve qu'il a usé le plancher. On l'a même découpé pour lui en donner un morceau. Juste de penser que je vais monter sur cette scène, je trouve ça émouvant. Un père moderne avant l'heure. Malgré une carrière exigeante, Patrice Lécuyer a pleinement profité de sa vie familiale. Aujourd'hui, ses 2 filles, âgées de 24 et 23 ans, volent de leurs propres ailes. « C'est une très belle étape, blague-t-il. Mes filles sont parties. Les gens s'imaginent que j'ai travaillé comme un fou toute ma vie, mais j'ai probablement été un père plus présent que la moyenne. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé, mais en contrepartie, j'avais beaucoup de temps libre. Quand ma première fille est née, j'ai pris une année sabbatique. Chaque an, j'ai passé 2, 3 ou 4 mois à la maison à temps plein. J'avais la chance d'organiser mes horaires. C'était fantastique. J'ai été très présent et, par conséquent, je n'ai aucun regret. Même sur le plan professionnel, il n'en éprouve aucun. J'ai réalisé presque tous mes rêves professionnels, avoue-t-il. En fait, j'ai même fait bien plus que ce que j'aurais osé imaginer. Je me souviens qu'à 16 ans, ma blonde, avec qui je sortais depuis un mois, m'avait demandé ce que je voulais faire dans la vie. Quand je lui ai répondu que je voulais être acteur, elle a tellement ri qu'elle en est tombée à la renverse dans un banc de neige. Ça m'avait tellement fait mal. Le doute comme moteur. Si cet épisode avait pu semer le doute chez le jeune acteur en devenir, il admet n'avoir jamais eu besoin de qui que ce soit pour plonger dans cet état, étant lui-même la source de ses propres incertitudes. « Je suis quelqu'un qui doute de toute façon », confie-t-il, amusé. « J'aurais trouvé une autre raison de douter. Je pourrais même donner des cours d'inquiétude. » Mais j'en parle dans mon spectacle. Ce n'est pas parce qu'une chose te fait peur que tu dois t'empêcher de la faire. Dans la vie, on ne se fait pas assez confiance. On ne s'aime pas assez. Les doutes, je les compare au trac. Certaines personnes en sont paralysées, mais moi, ça me stimule. Avec les années, ses inquiétudes ne se sont pas apaisées, mais Patrice a appris à les apprivoiser. Je m'inquiète souvent pour des choses sans importance, dont je ne devrais pas me préoccuper, mais fondamentalement, je suis un éternel optimiste. J'ai toujours cette certitude que, d'une façon ou d'une autre, tout finira par bien aller. C'était « À 65 ans, Patrice Lécuyer se lance un nouveau défi », un texte de Michel Lemieux paru le 15 mai 2025 dans Virage.
En juin, Jolie Autochtone, recommandation théâtrale. 6 suggestions de Marie-Josée Bastien et Yves Sioui-Durand, paru le 1er juin 2025 dans le carnet thématique Jolie Autochtone. Marie-Josée Bastien. Marie-Josée Bastien est comédienne, metteuse en scène et autrice. Très impliquée dans son milieu, cette artiste Wendat enseigne également au Conservatoire d'art dramatique de Québec et assume la direction artistique du théâtre Niveau Parking. 1. Alter Indien, par Drew Hayden Taylor, production Minuen Takuan. Un couple contemporain très libéral organise un dîner. Les invités sont des couples qui représentent ce qui est maintenant devenu le cliché des extrêmes des deux sociétés. Drew Hayden Taylor aborde frontalement les thèmes délicats entourant les rapports entre les peuples autochtones et non-autochtones et les expose avec un humour acerbe. La pièce n'aborde pas seulement des questions culturelles. Elle remet en question les valeurs simplistes que certaines formes de culture populaire mettent de l'avant, la sincérité, la bonne volonté, l'attitude positive. Taylor ose affirmer que, même si ces qualités sont admirables, elles ne suffisent pas pour régler les conflits profonds entre les peuples. 2. Mon oncle Jules, par Jocelyn Sioui, édition Anénorak. L'écrivain s'est enraciné dans l'histoire de son grand-oncle pour mieux réfléchir sur l'histoire, celle avec un grand H. Citation : J'ai réalisé que je pouvais raconter une partie de l'histoire du 20e siècle, l'histoire autochtone, à travers le prisme de mon oncle Jules. Fin de citation. Avec sa plume vive, touchante et intime, Jocelyn Sioui entame une conversation captivante entre l'histoire, la famille, le passé et le présent avec une touche d'humour. L'écriture claire, le style engageant et unique, ainsi que la forme originale, en font une œuvre indispensable. 3. The Unnatural and Accidental Women, par Marie Clements, édition Talon Books. Basée sur les meurtres bien réels de 10 femmes autochtones par Gilbert-Paul Jordan, qui a échappé à une condamnation pour ses crimes, la pièce fait revivre les victimes pour leur permettre de partager leurs rêves interrompus brutalement. c'est une dénonciation puissante d'un système qui a permis à un homme de commettre des meurtres en toute impunité en exploitant le racisme systémique et un hommage vibrant à celle que la société a oubliée. Yves Sioui-Durand. Yves Sioui-Durand cofonde Ondinoc, compagnie pionnière du théâtre autochtone francophone au Québec, en 1985. Artiste senior, dramaturge, metteur en scène et pédagogue, il publiera, en septembre, un livre sur les 40 ans d'Ondinoc aux éditions du Passage. 4. Okinom, par Émilie Monet, production Onishka, édition Les Herbes Rouges. Le spectacle Okinom de l'artiste pluridisciplinaire Anishinabe Émilie Monet, créé par sa compagnie Onishka, m'interpelle tout particulièrement. Dans une théâtralité circulaire appuyée par une scénographie complexe, Okinom nous propose une histoire sensible de guérison qui dénoue les barrages intérieurs qui nourrissent la maladie. Une métaphore théâtrale où la mythologie du castor géant exprime les luttes et les pertes des peuples autochtones dans le contexte de la colonisation. Émilie se réapproprie ici les mots puissants de sa langue Anishinaabemowin. Si vous n'avez pas pu vivre ce spectacle, le livre est publié aux éditions Les Herbes Rouges. 5. Tupcan, nos territoires intérieurs, par Dave Jennis et Xavier Huard, production Awen, Ondinoc et Minwen Takran. Tupcan, nos territoires intérieurs, est le fruit d'une collaboration inédite. Cette fresque dramatique raconte le déchirement de deux clans qui s'affrontent au moment où les promoteurs de la mine voisine cherchent à s'accaparer une partie du territoire. Soleil Launière, artiste multidisciplinaire Île-Nue, en assume la mise en scène. Voyez ce spectacle sur la scène du Centre national des arts à Ottawa en novembre 2025 et au Théâtre du CEP à Montréal en mars 2026. 6. Rosa, par Carlos Rivera Martinez, production Ondinoc. Rosa est un spectacle théâtral et chorégraphique en devenir conçu par l'artiste Nahua Carlos Rivera Martinez. Autochtone mexicain, il nous plonge dans une exploration théâtrale où de puissantes images chorégraphiques évoquent le voyage à pied de sa grand-mère, obligée de quitter son village natal pour la ville de Mexico. L'interprète féminine donne chair à des apparitions qui sourdent d'une mythologie réinventée. À surveiller à Montréal en 2027. C'était « En juin, je lis autochtone, recommandations théâtrales ». 6 suggestions de Marie-Josée Bastien et Yves Sioui-Durand, paru le 1er juin 2025 dans le carnet thématique « Je lis autochtone ». ».